Il est 8h, soyez les bienvenus. C'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. De la fumette en vente libre à la une ce matin, préconisation du Conseil d'analyse économique, 9 euros le gramme. Fabriqué et vendu par l'État, ça ferait 2 milliards de retombées dans les caisses du fisc. Explication dans un instant. Ode à l'ère pompidolienne, signé Emmanuel Macron hier soir. Hommage à l'homme qui pensait en même temps à la vieille France et à la nouvelle, selon le président. Réforme de l'audiovisuel public, lutte contre la haine sur Internet, l'homme de la situation dans ce studio dans 20 minutes.
Oui, il s'agit du ministre de la Culture, Franck Riester. Il est effectivement l'invité du grand entretien de la matinale. Vous pouvez dialoguer avec lui, lui poser toutes les questions que vous souhaitez. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter.
À la une également la dernière vidéo épouvantable de l'association L214. Les États-Unis qui réfléchissent à indemniser les descendants d'esclaves et des Américains tellement sûrs de leur footballeuse, la victoire au Mondial leur est déjà acquise, si on écoute leurs supporters.
France Inter.
Bonjour monsieur le buraliste, je voudrais 2 grammes de cannabis, s'il vous plaît. Très bien madame, ça vous fera 18 euros. Cette scène aura-t-elle lieu un jour en France, alors qu'on en est à peine à l'expérimentation du cannabis thérapeutique? Un organisme très sérieux l'envisage tout aussi sérieusement, c'est le Conseil d'analyse économique, rattaché au Premier ministre, qui propose ce matin de légaliser le joint. Fabien Cazot, vous avez lu cette note du CAE, bonjour.
Bonjour.
De la production à la vente aux recettes fiscales, tout y est décrit dans le détail.
Oui, et c'est un véritable plaidoyer économique en faveur de la légalisation du cannabis en France. Les recettes fiscales liées à la vente régulée par l'État seraient de 2 milliards d'euros par an. Si on appliquait dessus une TVA à 20% sur la base d'un gramme vendu à 9 euros, vous le voyez, le Conseil d'analyse économique qui s'est auto-saisi du sujet sans que Matignon lui demande quoi que ce soit, est allé assez loin dans le détail de ses projections. Les recettes pourraient notamment financer la protection des mineurs. Le cannabis légalisé, ce serait aussi bon pour l'emploi, jusqu'à 57 000 emplois créés dans le cadre d'une légalisation contrôlée de la fabrication à la distribution. Une bouffée d'air économique qui tranche avec le bilan très négatif que le rapport tire de l'actuel système de prohibition. Un échec, écrit noir sur blanc le Conseil d'analyse économique, inapte à protéger les plus fragiles, notamment les jeunes, qui pèsent lourdement sur les finances publiques et qui profitent aux organisations criminelles. Les Français figurent aujourd'hui parmi les plus gros consommateurs de cannabis de l'Union européenne, sans augurer d'une quelconque décision politique, le Conseil appelle les pouvoirs publics à reprendre d'urgence le contrôle de la situation.
Fabien Cazot, merci, chef du service économique de France Inter et hasard ou coïncidence. C'est aujourd'hui que plusieurs députés, dont 5 de La République En Marche, déposeront une proposition de loi à l'Assemblée pour légaliser le cannabis récréatif, là aussi avec les mêmes arguments que le Conseil d'analyse économique. Pour François-Michel Lambert, député du groupe Liberté et Territoire, c'est d'abord une question de santé publique.
C'est de la merde ce que les gens fument. Ça arrive de on ne sait où, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme intrant dedans. Donc on est dans un niveau, je dirais presque, de risque sanitaire majeur.
Voilà, un cannabis à la production contrôlée et au taux de THC réglementé, c'est ce que propose ce texte. Si Valérie Boyer de LR fait le même diagnostic que François-Michel Lambert, elle ne plaide pas pour autant pour une légalisation.
Faire de la prévention auprès des jeunes, notamment parce que c'est eux que ça touche, sur le décrochage scolaire, etc. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'aimerais qu'on mette nos efforts, parce que c'est toute une génération qui est à sauver dans ce domaine.
Voilà, 2 députés au micro de François Rosy. Pour l'instant, le gouvernement n'est pas favorable à la légalisation.
Et en ce temps-là, fumer du cannabis était considéré, Florence, comme une déviance de beatnik.
Mais oui, l'époque était à la cigarette. Le président en avait toujours une entre les doigts. C'était il y a 50 ans, élection du président Georges Pompidou, juste après le général. Emmanuel Macron lui a rendu hommage hier lors d'une réception à l'Élysée. Souvenir d'un temps où la France ne connaissait pas la crise. Et nous nouvelle occasion pour le président de mettre ses pas dans ceux d'un homme de droite, Cyril Graziani.
Emmanuel Macron a voulu s'inscrire dans l'héritage de Georges Pompidou en vantant d'abord sa modernité.
Les années Pompidou, au fond, comme Premier ministre puis comme président, ce sont les années de cette modernité française, c'est-à-dire d'une capacité à prendre ses risques et à construire une histoire de progrès pleinement cohérente avec notre identité et une histoire de progrès qui fut tout à la fois progrès le plus extrême, technologique, culturel, et le progrès pour chacun de nos concitoyens et pour les classes moyennes françaises.
Sans effet lyrique hier, Emmanuel Macron a surtout tenté de démontrer que la modernité de Pompidou, il l'a partagée pour ne pas dire l'incarnait à son tour, comme un effet de loupe avec sa présidence près de 50 ans plus tard. Pompidou, c'est aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de louer l'art d'être français, devenu le symbole de sa politique depuis sa conférence de presse.
C'était en effet un enraciné, revendiqué. Le Cantal et les cafés du plateau, Cajard, les engagements lotois, son incarnation, sa place dans le pays, sa trace. Parce que cette volonté est cohérente, parce qu'il y a quelque chose au fond de cet art d'être français, en effet, qui est profondément le sien.
Marcher dans les pas de l'ancien président, alors que le parti LR s'enlise, Emmanuel Macron très clairement poursuit à travers cet hommage son opération de destruction de la droite.
Emmanuel Macron à Bruxelles avec ses homologues européens aujourd'hui et demain. Réussiront-ils à se mettre d'accord sur les postes clés de l'Union ? On en a beaucoup parlé au moment des élections. Il faut remplacer le président du Conseil, celui du Parlement, la chef de la diplomatie et Jean-Claude Juncker à la Commission. Ce fauteuil-là est le plus important, Louise Baudet, qui conditionnera la désignation de tous les autres.
Le président de la Commission de Bruxelles, un Premier ministre sous tutelle. Il pilote, c'est vrai, l'exécutif de l'Union, mais attention, les directives et décrets qu'il propose doivent être validés par le Parlement européen et les États membres, pouvoirs partagés et prérogatives plus limitées qu'on l'imagine. Les États membres, justement, vont eux aussi se choisir un représentant, président du Conseil européen. Job, là aussi, à temps plein. Il est de toutes les négociations clés. Crise de la dette, Brexit, migrants, et doit avant tout gérer les désaccords entre chefs d'État et de gouvernement. Des États souvent jaloux de leurs prérogatives, notamment en matière de politique étrangère. C'est tout le problème du haut représentant pour la politique extérieure de l'Union. Poste créé en 2009 afin de renforcer la voix de l'Europe à l'international. Mais chacun tient à sa souveraineté et la diplomatie. La diplomatie européenne n'est même pas mentionnée dans les traités. Les États qui ne sont toutefois pas les seuls à décider, les eurodéputés gagnent peu à peu en autorité et les bras de fer sont fréquents, d'où le rôle décisif du président du Parlement, quatrième poste clé pourvu lui début juillet.
Voilà les chefs d'État en deux jours pour en parler, mais les nominations ne seront sans doute pas pour ce coup-là.
Il est 8h08, Florence, âme sensible, s'abstenir, ce qui va suivre est effrayant.
Comme le sont toutes les vidéos de l'association L214, la dernière montre le traitement réservé aux animaux dans un centre de recherche de la Sarthe. L'entreprise Sanders y travaille sur la nutrition animale. Olivia Cohen.
Imaginez une vache à qui on aurait greffé un hublot sur le flanc gauche.
On a percé un trou dans leur estomac.
Des images commentées par l'animateur Nagui.
Régulièrement, des employés viennent ouvrir le hublot pour y déposer des échantillons d'aliments.
Des aliments déversés à l'aide d'un gigantesque tuyau enfoncé sans ménagement, un peu comme quand on insère une pompe à essence dans le réservoir d'une voiture. Ce centre, le plus grand d'Europe, appartient au leader français de la nutrition animale, le groupe Sanders.
Pour Sanders, ces vaches ne sont que des machines à produire du lait dont on essaye d'optimiser les réglages.
En 2 minutes 14, la vidéo dévoile des enclos et des clapiers minuscules, métalliques, dépourvus de lumière et de paille, avec dedans des veaux recroquevillés, des lapins entassés, des cochons blafards.
Quant aux poulets, issus de souches à croissance rapide, nourris avec une alimentation trop riche, leur poids est poussé à l'extrême. Ils arrivent à peine à marcher.
Sur le site internet de Sanders, un court paragraphe assure en grosses lettres rouges vives que l'entreprise porte une attention particulière au bien-être animal. L214 assure au contraire que ces expérimentations sont hors la loi car non conformes au code de bonne pratique en la matière. Un code qui stipule qu'il faut se limiter, je cite, aux seules expériences considérées comme absolument nécessaires.
Voilà, et L214 porte plainte contre cette ferme expérimentale. L'entreprise Lafarge peut-elle être poursuivie pour crime contre l'humanité en Syrie? C'est l'objet du débat qui se tiendra aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. Le cimentier est soupçonné d'avoir versé de l'argent à des groupes djihadistes pour continuer à faire tourner son usine. Mais que savait-il à l'époque des activités de ces groupes? C'est toute la question, Corinne Audouin.
Il y a tout juste un an, Lafarge est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Selon les juges d'instruction, le cimentier a versé de l'argent à l'État islamique et à d'autres organisations terroristes en 2013 et 2014. Pour les magistrats, ces groupes sont alors engagés dans le djihad global via des attaques systématiques contre la population civile syrienne. Ce que réfute Lafarge pour qui les crimes, alors commis dans la région, en guerre, ne suffisent pas à soupçonner la commission de crimes contre l'humanité. En réponse, les parties civiles, plusieurs associations, ainsi que 11 anciens employés de l'usine syrienne, témoignent à contrario des exactions systématiques commises à l'époque par les groupes djihadistes. Les salariés chrétiens, kurdes, alaouites de l'usine étaient particulièrement menacés, raconte-t-il. Les exécutions publiques, les enlèvements étaient monnaie courante début 2014 dans la ville où vivaient les employés de Lafarge. Pour eux, la société, en finançant ces groupes, s'est bien rendue complice de ces crimes.
La décision sera mise en délibéré. Dans le contexte de tensions entre Washington et Téhéran, cette information ce matin qui provient des gardiens de la révolution iranien. Ils annoncent avoir abattu un drone espion américain qui aurait violé leur espace aérien. Les États-Unis accusent l'Iran, vous le savez, d'avoir attaqué deux tankers la semaine dernière dans le golfe d'Oman. Et voilà une question qui fait la une aux États-Unis en cette année de commémoration de l'arrivée des premiers esclaves africains. C'était en Virginie, il y a 400 ans. Et l'on reparle d'indemniser les descendants d'esclaves. Hier, un débat a eu lieu à la Chambre des représentants, alimenté par la campagne pour les présidentielles. À Washington, Gregory Phillips.
En 1865, alors que la guerre de sécession vient de s'achever, Abraham Lincoln promet d'octroyer 40 acres de terrain et une mule à chacun des 4 millions d'esclaves noirs libérés. Mais sa parole ne sera jamais respectée. Plus de 150 ans après, le débat sur l'indemnisation des descendants d'esclaves refait surface, porté notamment par l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui hier à la Chambre disait ceci. Il est impossible d'imaginer l'Amérique sans l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, une famille moyenne noire américaine est 10 fois moins riche qu'une famille blanche. Aujourd'hui, les femmes noires meurent au moment de l'accouchement 4 fois plus que les femmes blanches. Et bien sûr, dans ce pays de la liberté, il y a cette honte. Les descendants des esclaves forment la plus grande partie de la population carcérale. Plusieurs candidats à l'investiture démocrate soutiennent le projet, mais ne détaillent pas les mesures qu'ils prendraient pour le mettre en œuvre. 35 millions d'Afro-Américains pourraient être concernés et la mesure pourrait coûter jusqu'à 10 000 milliards de dollars selon le degré de compensation retenu. Dans un sondage réalisé en 2015, 52% des Noirs américains étaient favorables à cette idée, 89% des Blancs interrogés s'y opposaient. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Jeff Bezos, Bill Gates et Bernard Arnault, le patron de LVMH, est désormais le troisième homme le plus riche du monde, selon l'agence Bloomberg. Premier français à dépasser les 100 milliards de dollars de fortune devant Warren Buffett. Et Mark Zuckerberg, la première femme de ce club des milliardaires, arrive en 9e position. C'est Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal. Peu de femmes dans les allées du salon du Bourget également. Elles sont rares dans l'aéronautique, 20% seulement. Les entreprises du secteur cherchent donc à se féminiser. Des marraines de ces métiers vont sensibiliser des collégiennes et des lycéennes depuis une dizaine d'années. Des femmes passionnées par leur métier, Sophie Bécherel.
Pour Laurentia Gondin, ce n'était pas un rêve d'enfant. En filière sportive à l'université, une grave blessure l'a obligée à se réorienter. En cours d'année, la voilà dans un CAP aéronautique et en stage chez Dassault Falcon Service.
Mon stage, ça a été la révélation pour moi. J'étais comme un poisson dans l'eau, j'ai adoré vraiment.
Pleine d'a priori, elle se découvre une passion pour les Rolls-Royce de l'aviation, comme elle les appelle, les jets privés.
Je ne pensais pas que le métier était aussi passionnant, aussi diversifié aussi, parce que ça passe de la dépose d'un train d'atterrissage à travailler sur un moteur ou faire des réglages de commande de vol. Le côté mécanique, j'ai vraiment découvert tout ça et j'ai adoré.
Alors oui, dit-elle, j'ai eu droit à quelques remarques sexistes. Audrey Dussard aussi, elle est technicienne en logistique chez Safran.
C'est vrai qu'au début, je venais en jogging. On n'y échappe pas, les hommes c'est des hommes et c'est malheureux à dire, mais du coup voilà, ils ont tendance à avoir les yeux qui se baladent un peu partout et à moindre vous êtes avec une chemise, il suffit qu'il y ait un bout tout enlevé, toi tu l'as pas vu, et lui il l'a très bien vu.
Épanouie, fière des responsabilités qu'on lui confie, Audrey dit que son métier a changé sa vie. Quant à Laurentia, à 33 ans, elle s'apprête à devenir première pistarde, c'est-à-dire celle qui donne l'aval pour le retour en vol des avions après maintenance. Son message aux jeunes filles qu'elle croise, comptez sur vos compétences.
Je leur dis, n'ayez pas peur en fait, certes c'est un milieu d'hommes, mais justement, plus on sera de femmes, plus ce sera naturel pour tout le monde. On va être jugé par nos compétences et rien à voir avec le fait qu'on soit une femme ou un homme.
Et voilà, Sophie Bécherel pour ce sujet au Salon de l'aéronautique au Bourget, la ville de l'aéronautique. Vous le savez, c'est Toulouse et Toulouse a subi un orage particulièrement violent hier soir avec des gros grêlons et des vents jusqu'à 137 km/h. On n'avait pas vu ça là-bas depuis la tempête de 99. Heureusement, ça n'a duré qu'une dizaine de minutes. Les matchs de poule se terminent au Mondial féminin féminin de football. Les championnes américaines, championnes du monde, ferment le bal à 21h ce soir face à la Suède au Havre. Match à guichet fermé, 24 000 spectateurs dont 7 000 américains. Si elles finissent premières de leur groupe, les américaines, elles joueront l'Espagne en 8e puis la France en quart. Si elles finissent 2e, les bleus ne pourront les affronter qu'en finale. Quoi qu'il en soit, si les françaises regardent ça de très près, ça n'est pas du tout le souci des américains, Bertrand Queneut.
La France en quart ou en finale, peu importe. La sélectionneuse américaine Jill Ellis refuse de se projeter.
Peu importe l'équipe ou l'adversaire, on ne choisit pas son adversaire. Notre priorité est donc l'équipe qui va nous opposer pour le prochain match. Nous avançons un match à la fois.
Quel que soit l'adversaire, les États-Unis de toute façon iront au bout. C'est l'avis de beaucoup de supporters américains. Ce couple, la quarantaine,
Jessica,
Michael,
originaire du centre-ouest des États-Unis,
Colorado Springs,
affiche beaucoup de confiance et de sérénité.
Je pense que les États-Unis vont gagner la Coupe du Monde et que d'ici peu, on va battre la France.
Et les Françaises ne font pas peur à Michael pour le moment.
Pas vraiment, non. Les Françaises n'ont pas super bien joué jusque-là. Si elles élèvent leur niveau, peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Des Américains ultra confiants, venus en nombre et qui remplissent les stades comme le Parc des Princes lors du dernier match face au Chili.
Le stade était rempli d'Américains. Ça fait drôle d'ailleurs d'être à Paris et d'en croiser autant.
Des Américains, 6 sur 2, qu'ils sont 17 000 à avoir acheté un billet pour la demi-finale et la finale avant même le début de la compétition. Le Havre, Bertrand Queneut, France Inter.
Voilà l'arrogance américaine pour ce mondial de foot. On saura ce soir à 18h qui seront les adversaires des Bleus en 8e de finale. A priori, le Brésil ou alors le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande.
Merci Florence Paracuelos. La météo rapidement, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Les orages continuent, Marie-Pierre.
Et oui, avec un axe très pluvieux à l'est d'une zone qui relie le sud-ouest et les Pyrénées en remontant sur le massif central vers le nord-est avec trois cellules plus orageuses dès ce matin. Une des Ardennes à la Champagne à l'Île-de-France, une deuxième de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté aux Alpes et autour de la vallée du Rhône et une troisième du Languedoc à la Lozère. En revanche, de très belles éclaircies reviennent dès ce matin du Cap Griné à la Bretagne jusqu'au Cap Ferré, avec une averse possible sur les pays de la Loire.
Les orages resteront bien actifs,
oui,
l'après-midi.
Sur l'Auvergne, à l'Alsace, jusqu'à l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, jusque même dans l'intérieur de la Provence et les Alpes-Maritimes. Et puis sur l'ouest du pays, la Gironde, à la Bretagne, au bassin parisien, au Hauts-de-France, le soleil sera de plus en plus ensoleillé. Puis autour de la Méditerranée, les pluies déborderont sur le golfe du Lion, mais de la Camargue à la Côte d'Azur à la Corse, même programme, toujours soleil et chaleur, jusqu'à 31 à Ajaccio et sur le pont d'Avignon, 30 à Marseille. Contraste avec les 18 attendus sur la pointe bretonne et la côte fleurie en Normandie ou les 19 au Pays Basque, comme à Espelette. Vous n'aurez pas plus de 20 à Lille, 22 à Paris, 23 à Bourges et Bordeaux, 24 à Strasbourg, 25 à Menton et Lyon.